J'invite Aubin à venir là. Et puis je vais inviter mes deux frères, Michel et puis ton ami. Alors je ne connais pas son, je n'ai pas son prénom, Jean-Charles, amen, de prier pour Aubin, pour ce moment, qu'il soit sous l'onction de Dieu. Et je vous invite à prier l'un et l'autre.
Seigneur, nous voulons te. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te remercier parce que tu as dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et tu as déclaré aussi que tu es le pain, Seigneur, venu du ciel, Seigneur. Seigneur, alors que Aubin va parler, partager cette parole, Seigneur, nous voulons discerner que c'est toi que nous allons recevoir, car tu es le Verbe, tu es la parole, Seigneur. Merci de venir avec ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous ouvrir notre cœur, notre intelligence, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ce qui est esprit et vie, Seigneur, de cette parole. Seigneur, nous voulons de partager, de briser le pain, Seigneur, que spirituellement, tu puisses briser aussi cette parole, l'ouvrir, que nous puissions recevoir la vie de cette parole, ce que tu veux nous transmettre comme message. Seigneur, te remettons notre frère, dans ta présence, tu dis qu'il y a la liberté, là où ton esprit est, il y a la liberté. Donne-lui d'être dans la liberté de ton esprit. Et donne-lui de nous communiquer ta vie, Seigneur, ta vérité et le chemin que tu veux que nous suivions. Te rendons grâce pour Aubin, pour sa vie, Seigneur, et pour ce que tu l'utilises ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole est la vie. Merci, Seigneur, pour ce que nous allons entendre ce matin. Et Seigneur, nous voulons ouvrir nos oreilles à ta parole, mais nous voulons ouvrir notre cœur à ton esprit. Merci Seigneur pour Aubin. Tu lui donnes, Seigneur, cette liberté de parler. Merci qu'il nous apporte, qu'il ne nous apporte pas sa pensée, mais la pensée de Christ. Merci Seigneur, parce que ta parole, c'est la vie. Un mot de ta parole peut changer nos vies, nos cœurs. Et je voudrais chasser toute distraction qui pourrait nous empêcher de nous attacher à ta parole, de nous attacher à ce qui va être dit, toute distraction, tout amusement. Et parce que c'est bien d'entendre ta parole, mais c'est mieux de la méditer, d'avoir toute notre énergie attentive à ta parole. Merci Seigneur pour Aubin, merci pour ta parole Seigneur. Amen.
Merci Père. Alors écoutons cette prédication, non pas comme s'adressant à notre voisin, mais s'adressant à soi. Amen. Prenons l'engagement de recevoir cette prédication pour soi. Donc soyons attentifs et à l'écoute. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui est sur lui. Nous avons prié pour que l'Esprit du Seigneur soit sur notre frère Aubin. Que l'Esprit de Jésus vienne toucher votre cœur directement. Donc ne songez pas à votre voisin. Cette parole vous est adressée spécialement. Amen.
Amen. Amen. Les enfants sont dans la salle et puis ils vont parler du fait que nous avons un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Et merci Seigneur pour ces enfants que tu bénis avec Magali et que tu poses une provision divine dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Il est important en tant qu'Église que nous continuions à porter ces enfants parce que c'est en eux que Christ va aussi envoyer sa vie et sa vie en abondance. Et nous sommes une église, et dans cette église, nous sommes les membres les uns des autres. Et je crois que nous sommes dans une saison où Dieu veut nous appeler en tant qu'église à vivre un projet commun. Et si vous vous rappelez, il y a quelques dimanches, notre ancien Jean-Marie nous a partagé sur cette pensée du corps. Dimanche passé, Eric, je n'ai pas écouté la prédication, mais quand je suis revenu des enfants, j'ai entendu qu'il était aussi, il y avait ce cœur de Dieu aussi sur l'Église, sur le corps. Et depuis la semaine dernière, Dieu est en train de parler à mon cœur sur quel est notre projet commun en tant qu'Église. Notre union d'esprit, notre unité dans l'esprit. Et on peut se demander, mais pourquoi? Mais pourquoi Dieu veut que, en tant qu'Église, nous nous arrêtons pendant une saison pour parler de cela? Certainement parce que nous ne sommes pas un, les uns avec les autres. Lorsque on prend le texte de Jean au chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Et dans cette prière sacerdotale, il y a Jésus qui vient dire, Père, qu'ils soient un, les uns avec les autres, afin qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pourquoi l'unité? Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette ville où Dieu nous a posés en tant qu'Église à Cormontreuil, quelle que soit notre localisation, quel que soit ce que nous pouvons penser de ce projet, Dieu nous a plantés ici. Et comme Dieu nous a plantés ici, il désire que le monde voit sa gloire. Et si Dieu veut que le monde voit sa gloire, nous avons besoin d'être un. Et non pas être un simplement par on est un parce qu'on est unis à Christ. Il est dit ici, afin qu'il soit un en nous. L'unité s'obtient en Christ. Il est le cep et nous sommes les sarments. Et c'est la seule manière que nous avons d'être un les uns avec les autres. Nous avons des histoires différentes. Hélène a son histoire. Hélène a son passé. Hélène a fait des choses qui est différente de mon histoire. Je ne peux pas comparer l'histoire d'Hélène à mon histoire. Je suis né d'une famille de génération en génération. Ils connaissent le Seigneur. Ils ont servi le Seigneur. Donc, ce n'est pas la même chose. Tu es peut-être d'une famille brisée. Tu es peut-être d'une famille monoparentale. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a vécu dans une famille équilibrée. Nous avons des perceptions qui sont différentes de la vie. Et ces perceptions-là font de nous notre richesse. C'est ce que nous avons vécu qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand Jésus vient, il vient dans ce qu'on est aujourd'hui. Il vient dans ce qu'on est aujourd'hui. Jésus ne vient pas pour que on soit quelqu'un d'autre. Il vient et son œuvre se fait en nous. Mais ça part d'une chose, ça part de ce que je suis. Et si je ne considère pas ce que Dieu a fait dans la vie de Juliette, et si je regarde Juliette, pas avec le regard de Dieu, alors je ne suis pas un. Et le projet que Dieu veut faire avec Juliette, avec moi, moi et Juliette, pour son œuvre, ne va pas s'accomplir. Et c'est pourquoi on peut se poser la question, pourquoi Dieu nous arrête? Je veux commencer comme ça, pourquoi Dieu nous arrête? C'est Dieu nous arrête parce qu'il a un projet grand pour cette communauté, à la fois pour l'ensemble du centre biblique. Dieu nous arrête parce que nous avons besoin d'un rêve commun, de marcher des mêmes pas. Comme Paul, on doit se dire, au point où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Parce que de toute façon, personne ne cherche, personne ne creuse les choses. C'est que des on-dit. Je lisais une pensée de John Wesley au début du siècle et il parlait de l'église et il disait que c'est les mêmes choses que nous vivons. C'est une église qui ne prie pas, c'est une église qui ne cherche pas, c'est une église où il y a de la critique. Oui, c'est les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Dieu veut que nous faisions tomber ces choses-là pour que nous marchions des mêmes pas. Si le centre biblique veut rentrer dans une dimension nouvelle, il est bon que nous sortons de la critique, que nous sortons des opinions divergentes. Oui, Dieu a fait des choses dans chacune de nos vies qui sont différentes. Oui, ma compréhension est différente de celle de mon frère. Mais oui, Dieu a un projet pour nous en tant qu'Église. Et pendant que j'étais en train de préparer ce temps, on avait pris, moi et ma femme, c'était notre semaine où on devait jeûner, et on était dans le jeûne et la prière, et puis Dieu nous a donné le texte de Ésaïe 58. Et dans ce texte-là, il est parlé du vrai jeûne. Et quand on a commencé à lire, on s'est demandé, moi et ma femme, où on en est. Est-ce que on accomplit réellement ce qu'on est en train de lire? Ou est-ce que ce qu'on est en train de lire, c'est quelque chose de banal, qu'on croit comprendre? Non. Peut-être que tu es comme moi, tu es dans l'église il y a longtemps et que tu as tellement écouté des prédications, donc ça va, ça vient. Mais Dieu veut t'arrêter et te dire, ce matin, j'ai quelque chose pour toi. Il est bon d'écouter, mais il est bon aussi de vivre ce que nous écoutons. Moi, j'aime dire que le vrai christianisme, c'est ce qu'on voit pas simplement à l'église, mais ce qu'on voit lorsque on est dans nos familles. Dans la manière dont je traite ma femme, c'est ça le vrai christianisme. Dans la manière dont je traite mon frère, c'est ça le vrai christianisme. Dans la manière dont je vois ce que Dieu a mis autour de moi, c'est ça. C'est ce qui permet de dire que je suis chrétien ou je suis pas chrétien. Si simplement, souvent j'écoute et puis je me dis, oh Seigneur, c'est compliqué. Parce que on est là, on se critique les uns les autres. Je commence à insister là-dessus parce que ça me pèse. On se critique les uns les autres. On dit X, il est évangile de la prospérité. Y, il fait comme ça. Z, il a fait ça. Non, arrêtons, s'il vous plaît. Parce que on dit des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas travaillé. On a entendu des choses, donc on les répète. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on sera une église victorieuse. Franchement. C'est pas comme ça qu'on sera une église victorieuse. Et quand Dieu nous arrête, regardons ce que Dieu veut nous dire, mais reconnaissons que nous avons failli également. Parce que c'est ça qui fait la grâce. La grâce, c'est de comprendre que je suis pécheur. La grâce, c'est de comprendre que je ne peux pas arriver de moi-même et que Dieu a tout fait. Excusez-moi pour ceux qui sont peut-être nouveaux. Je vois Thomas, je vois le petit frère de Naomi. Excusez-moi, c'est un message qui est totalement chrétien de chrétien. Hein? Pardonnez-moi. Hein? Je vais essayer de dire des choses qui peuvent vous concerner également. Mais c'est un message qui s'adresse à des personnes qui viennent régulièrement à l'église et qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Pendant que je préparais ce temps, voici quelques paroles en préambule que Dieu m'a données pour ce temps. La première parole, c'est « Ce peuple m'honore du bout des lèvres ». Pourquoi? Il est question ici de l'adoration, il est question ici de la louange. Il est question ici de notre indifférence lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu. Il est question ici du fait que l'adoration, c'est pas simplement lorsque je prie, mais l'adoration, c'est aussi un style de vie. C'est appeler la présence de Dieu au quotidien dans nos vies. L'adoration, c'est comment je traite mes enfants. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Et la deuxième parole que Dieu m'a mis à cœur, c'est le fait que Christ est capable d'intervenir dans chacune des situations que nous vivons. Il n'a pas besoin de notre pitié ni de nos plaintes. N'ayons donc pas pitié de nos frères qui vivent des temps de preuves et de souffrances. Je reprends. Christ est capable d'intervenir dans chaque situation que nous vivons. Dieu n'a pas besoin de notre pitié et de nos plaintes. Donc, nous en tant que chrétiens, nous en tant que fils et filles de Jésus, n'ayons pas pitié de nos frères et de nos sœurs qui vivent des temps de souffrance et d'épreuves. Et quand on est arrivé, Hélène a donné un témoignage qui m'a brisé le cœur parce que ça m'a montré quelque chose, que nous avons un Dieu puissant mais qui est capable. Et ça reprend, Dieu est capable d'intervenir dans chaque situation que nous vivons. Vous voyez, en tant qu'église, nous avons prié plusieurs fois pour Hélène. Hélène, souvent, elle était ici, elle était fâchée et tout. C'est vrai Hélène. Elle a passé des temps où elle disait j'en peux plus de la vie. Nous en tant qu'église, quelle est notre position là-dedans? C'est continuer à fléchir les genoux. Ce n'est pas de regarder Hélène en disant attends, elle n'a rien compris, déjà elle a fait pas mal de conneries dans sa vie, c'est bien et c'est comme ça. Non, c'est pas ça notre position. Quel est le regard que j'ai lorsque je vois Hélène? Quel est le regard que nous avons lorsque nous voyons Hélène? Quand Dieu vient dire qu'il est capable, c'est pas parce que Dieu, il peut pas agir qu'il ne nous donne pas ce que nous demandons. C'est pas parce que Dieu, c'est un petit Dieu que je vais avoir pitié de ma soeur, tu vis des temps de souffrance, de difficultés. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu est capable de guérir Francis. Dieu est capable de le permettre de traverser cette épreuve avec victoire. Et même s'il ne le faisait pas, il demeure le Dieu d'éternité. Et nous, notre position en tant que fils et filles, c'est de prendre ce temps, de fléchir les genoux. Au lieu de parler, de rester parler, discuter, critiquer, arrêtons. Franchement, on va se dire les vérités. Arrêtons et fléchissons les genoux. Prenons des temps de jeûne, prenons des temps de prière pour cette situation. C'est ça, être un avec le Père. C'est ça, s'unir à ce que, au projet du Père. C'est ce que Dieu veut nous dire. Il n'a pas besoin de notre pitié, il n'a pas besoin qu'on ait pitié de notre frère qui est en train de vivre la difficulté. La troisième parole, et on va avancer, c'est Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Il est un Père plein de grâce et de miséricorde. Il ouvre les écluses des cieux. Il envoie sa bénédiction. Et il arrose le cœur tout entier à lui. J'ouvre une parenthèse. Dieu, il ne change pas. C'est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu ne change pas. C'est le même Dieu que nous a, depuis le début de la Genèse, depuis la création, depuis jusqu'à maintenant. Il ne change pas. Depuis tout temps, Dieu a été un Dieu de grâce et de bénédiction. Dieu, il ouvre son écluse des cieux et il fait grâce aux pécheurs. Regardez David. Comment David avait compris cette réalité du cœur du Père? Le fait que Dieu était un Dieu qui fait grâce à celui qui pèche. Comment David s'approchait de ce Dieu-là qui fait grâce? Regardez notre Père et Moïse. Dans Exode 33, Moïse, il a compris que c'était un Dieu qui était lent à la colère, mais qui était riche en bonté. C'était un Dieu qui faisait grâce de génération en génération. Et parce qu'il avait compris ça, il disait à Dieu, « Dieu, pardonne à ce peuple, et si tu veux pas, prends-moi. » Parce qu'il savait que Dieu n'allait pas le faire. Parce qu'il avait compris le cœur de Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, Dieu ne nous doit rien. C'est un Dieu qui hait le péché et la méchanceté. Ça, depuis tout temps. C'est pas maintenant. Dieu hait le péché et la méchanceté. Et il donne, pendant que je suis en train de parler, cette parole détache les liens de la méchanceté. Dieu est en train de dire à une personne, détache. Détache les chaînes de la méchanceté. Arrête de penser qu'à toi. Arrête de penser qu'à toi. Tu fais du mal autour de toi à cause de ton attitude. Dieu est un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il dit, il s'approche de ton cœur et il dit, je suis le Dieu qui t'appelle à mon salut. Donne-moi ta vie. On va repartir sur cette unité de l'esprit et en introduction, j'aimerais simplement dire, mais comment est-ce que je vois mon frère, ma sœur dans l'église? Cette question-là, comment est-ce que je vois mon frère, ma sœur dans l'église? Comment est-ce que je vois les filles de Jean? Comment est-ce que je considère celui qui est assis à côté de moi dimanche après dimanche? Est-ce que je considère qu'il fait partie de la même famille que moi? Sommes-nous différents? Qu'est-ce que je reproche à mon frère et à ma sœur? Ça, on peut prendre un temps de silence et puis il y a le doyen qui est en train de sourire. Qu'est-ce que je reproche à mon frère et à ma sœur? Qu'est-ce que je crois avoir compris de Dieu que mon frère n'a pas compris? Est-ce que je crois que mon frère n'est pas suffisamment spirituel? Et pour introduire ce partage, nous allons lire ensemble Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vais essayer de faire court. D'habitude, quand je prêche très longtemps. J'essaie de faire court aujourd'hui. Donc, aidez-moi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Quand vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Avant de lire ce texte-là, on a trois chapitres dans Éphésiens. Et dans ces trois premiers chapitres, il est question de notre position en Christ, à laquelle la grâce de Dieu nous a amenés. Donc lorsqu'on lit les trois premiers chapitres, il est question de la position que nous avons en tant que fils, fille de Dieu en Jésus. Et Paul va commencer au chapitre 4 à traiter d'une chose, de l'unité de la foi, du fait que nous sommes un en Christ. Et pour commencer ce test, Paul, prisonnier de Christ, va nous exhorter à mettre en pratique les exigences de notre position en Jésus-Christ et à aussi travailler à l'unité d'une manière digne. Et cette conduite-là, elle va se caractériser par des mots. Et c'est ces mots-là que nous allons voir très simplement ce matin. On va voir ensemble le mot humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? On va voir le mot douceur. On va voir la patience. On va voir, ça veut dire quoi? Le fait de supporter, de se supporter les uns les autres avec amour. Et on va parler de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et tout ça va nous donner de comprendre comment Paul traite l'union avec Christ, l'unité de la foi. Donc le premier mot que nous allons voir, c'est le mot humilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de vous? Je vais interroger, je vais vous faire parler un petit peu. Allons-y. Qui veut parler, qui veut l'humilité. Ouais, oui, tu veux dire quoi? Vas-y.
Pour l'humilité? Humilité. C'est ne pas écraser les autres.
Ne pas écraser les autres. Vas-y. Parlez un peu plus fort. Hein.
Se sentir inférieur aux autres.
Ne pas se sentir inférieur.
Si, se sentir inférieur aux autres.
Ah, l'humilité, c'est se sentir inférieur aux autres.
Oui.
Ok, on verra ça. Quelqu'un d'autre? J'interroge un seul humilité.
C'est considérer les autres comme étant supérieurs à soi. Avec avoir beaucoup d'estime pour les autres et considérer les autres supérieurs à soi.
Ok. Tu voulais dire quelque chose, Paul?
Savoir que moi aussi, quand même, je suis humain.
Savoir que moi aussi, oui, je suis
humain. Je suis un homme, hein, quand même. Hein. Faillible, hein? Je crois.
Ah, je suis un homme faillible. OK. Que vous dit le mot douceur? Douceur. C'est bon? Douceur? Ah, attends. Non. Hein? Vas-y.
D'être humble comme Jésus.
Être humble comme Jésus. Pas toujours les mêmes. Ah oui.
Alors la douceur, c'est dire quelque chose à quelqu'un en remballant les armes.
Ça dit quoi? Refais-moi. Parle plus fort pour que ça enregistre. On dirait que tu as dit quelque chose d'intéressant.
Oui. Alors c'est. Je peux dire quelque chose à une personne. En remballant mes armes.
Ah, en remballant ses armes. Ouais, ça c'est. Tu voulais dire quelque chose?
Avec amour, c'est lié à l'amour.
La douceur est liée à l'amour. Que vous dit le mot se supporter les uns les autres? Ça, tout le monde doit parler. Logiquement. Hein?
Non pas supporter pour être patient envers les autres, mais supporteur comme une équipe de foot. Voilà.
Okay. C'est une phrase de mes notes qu'il vient de dire. Bon. Être supporteur les uns les autres. Bon, on va en parler.
Aider les uns les autres.
S'aider les uns les autres.
Accepter les différences.
Accepter
les différences.
Accepter la différence. Oh, Michel, il est chaud.
C'est être chauvin.
Ça a dit quoi?
Ben parce qu'un vrai supporter, il va supporter son équipe même quand elle joue mal.
Ah oui. C'est la vérité.
C'est être endurant avec les autres, dans la relation avec les autres. Faire preuve d'endurance.
Allons-y, tu peux passer l'autre. Ensuite, on va parler de s'efforcer à... Vous vous efforcez à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça?
Je pense qu'il faut aussi de l'humilité pour rester en communion avec les autres.
Le besoin d'humilité pour rester en communion avec les autres.
Alors, conserver l'unité, c'est dépasser nos différences.
Dépasser nos différences
et accepter finalement que les faiblesses de nos frères et ses propres faiblesses.
Le mec s'élève, j'adore.
C'est le lien de la paix. Quand tu mets plus de bois dans un feu, il s'éteint.
C'est comprendre que l'unité est un enjeu qu'on veut conserver à tout prix. Et avoir le discernement que la paix est l'outil par excellence pour conserver cette unité, rechercher la paix avant tout.
Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous a laissé comme héritage. Avant de mourir, il a dit, je vous laisse ma paix. Et ça fait partie des fruits de l'esprit qui nous enseigne. Tout ça englobe le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, on va découvrir tout cela. Qui parle des fruits de l'esprit, contrairement aux œuvres de la chair, qui sont énormes, tandis que les fruits de l'esprit, il n'y en a que 9. Merci.
Okay. C'est une partie aussi de ce que j'ai écrit.
Oui, un autre passage qui dit « Soyez des ouvriers de paix ». C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à guerroyer. Voilà. Hein, des fois, il faut ravaler sa langue. Et puis...
Ça, c'est compliqué.
Voilà, et prier.
C'est compliqué de ravaler sa langue. Ok.
La paix, c'est la chose la plus importante et ça va dépasser nos propres opinions, les opinions qu'on a ou les opinions des autres qui ont contre nous ou nos opinions qu'on a contre les autres personnes. On peut donner notre opinion sans vouloir avoir le dernier mot et avoir raison. Et ce qui est le plus important, c'est la paix, c'est-à-dire donner notre opinion sans à vouloir avoir absolument raison. Et le dernier mot.
Amen.
Ne surtout pas blesser les autres quand on leur parle.
Ne surtout pas blesser les autres quand on leur parle. Vous voyez, on s'édifie mutuellement. Ça, c'est important. On s'édifie.
L'unité, c'est aller dans la même direction.
L'unité, c'est aller dans la même direction. Ici, quelqu'un veut parler?
Il y a forcément une notion d'effort.
Oui.
Voilà, parce que c'est pas inné. Oui. Et pour pouvoir y arriver, ce que Dieu nous a donné, c'est sa paix. Mais ça, c'est une notion. On peut pas y arriver tout seul, en fait. Ouais. À un moment donné, il dit si vous n'êtes pas d'accord, vous laissez là où vous n'êtes pas d'accord et n'a même pas avancé ensemble. Parce que sinon, on peut pas arriver à un but final. Sinon.
Amen. Qui veut que Dieu agisse puissamment au milieu de nous? Quels sont ceux qui veulent que Dieu agisse puissamment au milieu de nous? Amen. Donc, si nous voulons que Dieu agisse puissamment au milieu de nous, laissons-nous être attachés à lui, le cèpe. Et soyons ces sarments-là qui sont attachés à lui, le cèpe. C'est le texte de Jean 15. Et dans Psaume 133, c'est là qu'il envoie sa bénédiction. On veut que la bénédiction de Dieu coule. On veut que pendant qu'on est en train de parler là, il y ait une action, une action de consolation pour Francis. Soyons attachés. Soyons attachés à lui. Merci pour tout ce qui a été partagé. Donc ça va me permettre d'aller rapidement dans ce que j'avais. Moi, quand je vois humilité, je vois ce texte qui dit que Christ grandisse et que moi je diminue. Ça, c'est ce que ça me dit. Quand je vois humilité, ça me ramène à la croix. Ça me ramène à l'œuvre de Jésus. Parce que je me dis toujours, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais par ma propre intelligence, par ma propre force, ou est-ce que c'est Christ qui est en train d'agir? Est-ce que je lui donne toute la gloire? Est-ce que je donne toute la gloire à Jésus? Comment est-ce que je me considère? Quel est le regard que j'ai de moi-même par rapport à ce que je fais, ce que je dis, comment j'interagis, mais aussi par rapport à comment est-ce que je vois mes frères? Est-ce que je les vois? C'est des pauvres malheureux. Ou est-ce que je les vois comme supérieurs à moi? Je suis allé regarder dans un dictionnaire biblique la définition de l'humilité. Et il est dit, l'humilité, c'est cette grâce qui nous permet d'avoir une appréciation juste et réaliste de nous-mêmes. Ce qui nous libère de la vanité et nous rend capables d'user de prévenance réciproque. C'est ça l'humilité. Et cette définition me plaît. Parce qu'il y a la notion d'avoir une appréciation juste et réaliste. Être humble ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition. Ça, j'ouvre la parenthèse pour le centre biblique. Ce n'est pas parce qu'on veut être humble qu'on n'aura pas d'ambition et qu'on ne va pas faire de grandes choses, les amis. L'orgueil implique le fait qu'on veut protéger notre ego. Et il y a plusieurs manières. Il y a certains qui ont... Oh oui, qui aime se faire voir. Mais il y a aussi un ego qui est un peu plus subtil. C'est le fait de se sous-estimer. C'est le fait de se voir petit. C'est le fait de cacher, de ne pas vouloir avoir d'ambition. Ça, c'est de l'orgueil. Tant que je n'ai pas une juste appréciation de moi, de qui je suis en Christ, ça passe. Tout passe par la croix, les amis. Tout passe par la croix. Que Christ grandisse et que moi, je diminue. C'est pas parce que nous allons faire des choses, on aura de l'ambition dans des programmes qu'on pourrait faire, que ça veut dire qu'on est, on est orgueilleux, on se la pète. Non. C'est pas parce qu'on va faire des petites choses, on va faire ça entre nous, tranquille, sans nous déranger nous-mêmes, que ça veut dire qu'on est humble. Tout est une question de ego. Donc je reviens à cette définition qui dit avoir une appréciation juste et réaliste de nous-mêmes et être libéré de la vanité de ce... Voilà. Donc, ne nous sous-estimons pas. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et avec les enfants, c'est quelque chose qu'on travaille sur qui sont en Christ. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Jésus. Donc ne nous sous-estimons pas. Je ne pourrais pas dire de cette église, non, faut pas vous péter. Non, parce que nous, dans notre église, notre problème, c'est pas une histoire de Mathieu vu, c'est plutôt une histoire de on veut être petit dans son coin, on veut pas, oui, non. Ne nous sous-estimons pas. Vous savez, et nous avons la vie de Jésus en nous. Et cette vie-là, c'est une vie qui est abondante. Christ vient nous la donner gratuitement. Et cette vie-là crée en nous Jésus-Christ de Nazareth, son projet, son plan. Donc ne nous voyons pas comme petits, ne nous voyons pas comme insignifiants. Les gens peuvent nous dire des phrases, des paroles. Non, Jésus a donné des promesses pour nos vies. Mon fils est revenu de comment on appelle ça, du centre de loisirs, et puis il me dit, ah papa, moi je suis un clown. Je lui ai dit, bon, écoute, reviens. Tu sais, tu n'es pas un clown, tu es un fils de Jésus, mais tu peux faire comme un clown souvent, si tu veux. Mais ton identité, tu n'es pas un clown, tu es un fils de Jésus. C'est cette réalité-là qu'il faut qu'il comprenne. Il est encore petit, mais intentionnellement, comme je vous l'ai dit un dimanche, il faut être intentionnel. Il faut que cette vérité-là commence à rentrer dès à présent, qu'il est enfant de Jésus. Quand je lui dis, Olan, c'est quoi l'intelligence? Il me dit que c'est connaître Dieu. Je dis, oh là, il a compris. Parce que, intentionnel, Christ a une vérité pour chacun de nous. Ne nous sous-estimons pas. C'est pas parce que je passe par la maladie, souvent c'est un peu difficile, que je suis moins que rien. Il y a un gros plan de Jésus sur ma vie qui est tellement terrible que ce que Jésus est en train de faire est fantastique. Donc peut-être que pour un temps, je passe par de la difficulté. Mais ce que Jésus veut faire avec moi est... On va lire le texte de Philippiens chapitre 2, verset 3. Quand on parle d'humilité, c'est Philippiens chapitre 2, verset 1 à 3. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 3, je pense. Ouais, c'est celui-là. Je l'avais mis. On va le lire. Et on va voir ensemble une clé dans l'humilité. Philippiens. OK. Il est dit. Si donc il y a quelque consolation en Jésus, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, ce que nous traitons aujourd'hui, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. C'est Paul qui parle, rendez ma joie parfaite. En ayant, il donne la définition de l'unité. C'est un même sentiment. Un même amour, une même âme, une même pensée. Et ensuite, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les amis, les exigences de Jésus sont au-dessus des exigences de la loi. Ce que Jésus nous enseigne là, ça va au-delà de ce que la loi enseigne. Et là, ce qu'il est dit là, c'est que nous ne pouvons pas arriver de notre propre force. Hein. De moi-même, je ne peux pas voir l'autre comme étant au-dessus de moi. Et quand je regarde mon passé, tout ça, je vais, ah non, c'est compliqué. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir toujours à la croix, à ce que Jésus a fait. Et reconnaître que nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être humbles de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arriver de nous-mêmes. Mais Christ, en Christ, nous rentrons dans les mêmes sentiments que lui. et nous pouvons vivre l'humilité. La douceur, c'est accepter, c'est l'attitude qui accepte sans révolte ce que Dieu décide et qui accepte aussi la méchanceté des hommes, comme notre frère l'a partagé, en remballant ses armes, sans idée de vengeance. Être doux, c'est loin d'une manifestation de faiblesse. Mais c'est une force intérieure qui est liée à la maîtrise de soi. Et ça a été rappelé, c'est un fruit de l'esprit. Donc c'est quelque chose que l'esprit produit en nous. Donc ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons vivre la douceur. Tu peux essayer, si tu étais un père colérique, de dire au Seigneur, viens m'aider à être doux. Tu verras que les premiers instants, tu auras toujours des situations où tu devras choisir de te mettre en colère ou ne pas le faire. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait cela dans nos vies juste pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas arriver par nos propres forces. Tant que tu n'as pas abandonné à Christ, tu n'y arriveras pas. Donc là, j'ai parlé de la colère. Tu peux le transposer à tout autre péché dans lequel tu vas lutter. D'abord, la première chose que Dieu nous demande, c'est d'abandonner à ses pieds. Et la deuxième chose, c'est de prendre la résolution de compter sur lui. Mais avant, il faut que notre intellect comprenne que nous avons besoin d'abandonner. Donc, la douceur, c'est un fruit de l'esprit. C'est quelque chose que Jésus, l'Esprit de Dieu, crée en nous. Je vais parler de la patience. C'est une disposition du cœur qui nous permet d'être patient, quelles que soient les circonstances. La patience, comme ça a été dit, implique la persévérance et l'endurance. Ça implique aussi une patience vis-à-vis des réalités divines, mais aussi dans nos rapports avec nos frères et sœurs. C'est difficile d'attendre patiemment le secours de l'Éternel dans des situations, surtout que on sait que Dieu est capable. Mais Dieu a besoin de travailler ça en nous. Dieu a besoin que le caractère de Christ soit formé en nous. Dieu a besoin que son caractère soit formé en nous. Donc, il va mettre des frères à côté de moi, à côté de toi. Il va mettre des enfants. Il va te donner des enfants. Tout ça pour que son caractère, sa nature soit manifeste en toi. La patience également, c'est un fruit de l'esprit. Mais lorsqu'on dit tout ça, il est bon de revenir à Dieu. Nous avons un Père, un Dieu qui est à la fois patient, doux et bon. Lorsqu'il dit que je suis un Dieu lent à la colère, riche en bonté, ça implique sa patience et sa miséricorde. Et ça, il a dit depuis longtemps. Je comprends pas les frères et les sœurs qui n'aiment pas lire l'Ancien Testament. Franchement, je vais vous donner une clé de lecture sur l'Ancien Testament. Lisez-la comme le Dieu de toute grâce et de toute miséricorde et vous comprendrez toute la Bible comme ça. Parce que l'œuvre de la croix, ça a été manifesté avec Jésus, mais ça a commencé depuis le début. Donc, quand on commence à lire la Bible avec ce regard-là, nous comprenons que Christ nous a donné, par exemple, la loi par amour, et pour manifester sa grâce, pour nous montrer que par nos propres forces, on ne peut pas atteindre. Un jour, on parlera de ça. Les exigences de Jésus et les exigences de Moïse. Mais il est question ici de la du Dieu qui est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté dans Psaume 103, verset 8. Amen. Donc on a vu l'humilité, la douceur, la patience, et il est dit de se supporter les uns les autres, donc être supporté. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un match de foot, mais moi j'ai eu l'occasion d'assister à un match de foot au Maracana, c'est au Brésil, à Rio. Et le stade, il était gigantesque. On était pas nombreux. Oui, c'est l'un de. Et moi, j'ai assisté lorsque c'était encore le plus grand, ouais, avant la reconstruction. Et donc, on n'était pas nombreux, mais comme on faisait du tapage, faut encourager. Le stade était immense et nous, on supportait. Moi, je comprends pas du portugais, mais on criait pas possible et tout. C'est un vrai supporter. Les circonstances n'étaient pas géniales, hein. Mais on a supporté, on n'était pas nombreux dans le stade. Je pense qu'on était 2000 personnes, un très grand stade pour un match de saison régulière de Ligue brésilienne. C'est ça, supporter. Être derrière son frère et le supporter pendant que le frère est en train de passer par l'épreuve. Je vous assure, ça nous coûte. Ça nous coûte. Mais prenons la décision de le faire. C'est ça, c'est supporter. C'est accepter que l'autre commette des erreurs. C'est supporter les uns les autres, c'est accepter que nous ayons des différences de caractère, de capacité, d'humeur. Se supporter, ça implique ne pas critiquer son frère, sa sœur. Il est question de l'expression de l'amour que nous avons envers ce qui nous dérange, envers ce qui nous irrite, ce que nous ne comprenons pas dans ce qui est fait, dans ce qui est dit. Et c'est vrai, nous sommes influencés par notre histoire. Et j'aime le dire, quand je vois des personnes souvent en entretien, c'est de leur dire, c'est sûr, si tu as une enfance violente et que après tu te convertis, très souvent, parce que tu te dis Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, tu vas refuser de punir tes enfants. Pourquoi tu as ce comportement? Parce que tu as eu un passé. Mais ça, c'est pas l'équilibre de Dieu. Hein. On est bien d'accord. Hein. Dieu veut que nous mettons des bornes aussi dans l'éducation de nos enfants, afin que ces enfants-là puissent s'épanouir dans des bornes. Donc, on peut pas dire, les enfants, ils ne seront pas punis quand ils font non. L'enfant a besoin d'écouter les instructions. Donc, il y a Proverbes chapitre 3. Pour les parents, le jour où on parlera de ça, il y a Deutéronome chapitre 6 qui nous parle spécialement des bénédictions qui sont attachées au fait que nous, dans la manière dont nous éduquons nos enfants. Donc, c'est supporter les uns les autres, c'est être supporter de son frère, c'est accepter que l'autre fasse des erreurs. Et j'aimerais attirer notre attention sur le fait que nous sommes une église, donc nous sommes une organisation humaine. L'église, c'est une organisation humaine avec des gens qui ont des forces, des faiblesses. Ça, soyons-en conscients. Donc, il est bien de ne pas idéaliser une structure. Il est bien de ne pas idéaliser un mot de louange, comme j'aime le dire souvent. Il est bien de ne pas idéaliser une manière de prêcher, il est bien de ne pas idéaliser parce que on a tous des forces et des faiblesses. Mais ce qui est bien en Christ, c'est que c'est Jésus-Christ qui sanctifie l'Église. Donc, on peut avoir cette structure imparfaite, mais c'est trop bien qu'on soit une structure imparfaite, parce que ça nous permet de pouvoir compter sur lui qui est parfait. Sinon, on va s'attacher à une organisation, à un mode, à une manière de faire. Mais si vous ne croyez pas qu'on est une église imparfaite, venez me voir, je vais vous expliquer pas mal de choses qui sont imparfaites dans cette église. Hein? Et si vous ne croyez pas qu'une église est imparfaite, venez, on va parler. Il y a plein de choses. Donc, pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour qu'on ait les regards, non pas sur une structure, mais sur lui, le Père. Donc, il est important aussi de se rappeler que le mot diable vient de diabolos, qui signifie littéralement dire du mal ou calomnier. Alors, ça, c'est vrai par contre. Hein? Donc, quand tu dis du mal et tu calomnies, on peut dire diable. C'est la même chose. Donc, quand je suis supporter, je supporte en toutes circonstances. Le dernier point, c'est s'efforcer à conserver l'unité par le lien de la paix. Beaucoup de choses ont été dites, mais je veux juste insister sur le fait que l'une des dernières prières de Jésus dans Jean 17, où il dit que tout soit un. C'est la réalité de l'unité se fait en Christ, dans Galates 3, 28, et que on ne peut pas atteindre l'unité par nos propres forces. On ne peut pas l'avoir par nos propres forces. On ne peut pas essayer d'organiser, parce qu'on va organiser des choses ensemble, alors on sera un nom. C'est Christ qui nous unit. C'est pourquoi nous avons besoin de compter sur lui. Et cette unité est basée sur les sept réalités de Éphésiens 4, versets 4 à 6. Un seul corps. Ça veut dire pas de différence de race, de couleur, de nationalité, de culture, de passé. Pas de différence. Un seul corps. Un seul esprit. Le même esprit de Dieu habite en chaque croyant. Une seule espérance avec Christ. C'est le fait d'être avec Christ. Être comme Christ et partager sa gloire à venir. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, à qui nous devons soumission. Et en lui, nous devons soumission, mais aussi nous devons laisser nos couronnes, car lui seul est digne de recevoir la gloire. Lorsqu'il est Seigneur, on est obligé d'abandonner nos couronnes de petits seigneurs, petits chefs, tout ça. Une seule foi, la foi en Jésus-Christ. Un seul baptême, le signe de notre engagement à Christ et le témoignage de notre loyauté à Jésus. Et pour terminer, en conclusion, j'aimerais revenir sur cette question. Comment est-ce que je vois mon frère et ma sœur dans l'Église? Est-ce que je considère comment est-ce que je considère celui qui est assis à côté de moi, qui a donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'il fait partie de la même famille que moi? L'unité de l'esprit apporte la guérison au milieu du peuple de Dieu. L'unité de l'esprit apporte la restauration, la puissance de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et comme il est dit dans Éphésiens, et c'est un texte qui m'a beaucoup marqué quand je préparais à me marier, c'est Éphésiens, où il dit que Christ est le chef de l'Église, mais il ne dit pas simplement ça. Il dit que Christ sanctifie son Église. Il la sanctifie par sa parole. Donc, Christ est notre sanctification, notre purification. C'est Christ qui comble tout ce que vous pouvez voir comme défaut chez l'un et l'autre. Mais notre part, en tant que chrétien, c'est d'avoir un cœur contrit et brisé et de poser tout à la croix. Parce que ce que Dieu nous demande, le fait d'être humble, Le fait d'être doux, le fait d'être patient, le fait de se supporter, le fait de conserver l'unité, c'est des choses que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces. C'est des choses que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces, mais dont nous avons besoin de Christ. C'est pourquoi, avant d'être un avec notre frère, nous avons besoin que Dieu restaure notre relation avec lui également. Amen. Nous pouvons compter sur lui et prendre la décision de vivre dans sa grâce et dans sa bénédiction. Nous allons fermer les yeux et puis prier le Seigneur ensemble. Merci Jésus parce que tu as un projet pour nous en tant que communauté. Et c'est toi Dieu qui nous appelle à vivre l'unité de la foi. Viens nous bénir en tant qu'Église. Nous abandonnons nos critiques. Nous abandonnons notre désir d'avoir raison. Nous abandonnons ce qui est comme ancré dans notre caractère. Mais à la fois, nous prions pour ce projet d'église à commenter. À la fois, nous voulons prier pour que tu viennes nous aider dans nos familles. Afin que ta gloire vienne. Afin que nous soyons des fils et des filles de ton royaume. Merci parce que tu ne nous condamnes pas. Mais tu désires simplement nous montrer que en toi, nous pouvons compter. Nous voulons nous abandonner à toi. Christ, sois le roi, sois le bon berger pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.